Bien-aimés, frères et sœurs et amis, souvenons-nous que Jésus n'a jamais été dupe lorsque les gens sont allés vers lui. Songez à un Nicodème, à l'approche flatteuse. Il a été interloqué par les paroles de Jésus. Lui qui lui faisait des compliments s'entend dire « Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Il était loin de s'attendre à cela. Songez à la Samaritaine, tout ébahie qu'un juif lui adresse la parole. Et encore plus ébahi d'apprendre que l'eau que ce juif pourrait lui donner étancherait sa soif pour toujours. Et toujours ébahi lorsque cet homme lui révèle ce qu'a été sa vie. Chez eux, chez ces deux-là, l'œuvre est allée progressant. Tant et si bien que Nicodème comptera parmi les disciples de Jésus-Christ, et que cette Samaritaine, laissant sa cruche, s'en ira rapidement rejoindre ses concitoyens pour leur dire, ne serait-ce pas le Messie? Et tout à l'heure, il y a quelques instants, a été lu le passage de Jean 4. Rapportant le témoignage de ces hommes qui avaient cru sur la parole de la Samaritaine, mais qui après crurent et attestèrent, en entendant Jésus, qu'il était le sauveur du monde. À l'inverse de cela, nous avons vu la semaine dernière que le mouvement de masse dont parle Jean 8, et qui nous dit que beaucoup de Juifs crurent en Jésus, et la démarche d'une foule versatile. Jésus le sait. Jésus ne peut s'en satisfaire. C'est pourquoi très vite, nous l'avons vu, il va faire exploser comme un ballon de baudruche cette prétendue foi. Jean 6, pour cette semaine, nous introduit dans de semblables circonstances. Jean 8 se déroule en Judée. Jean 6 nous mène vers la Galilée. Là, quelque part, de part et d'autre de Capernaum, dans les collines, Jésus parle, Jésus agit, la foule le cherche, la foule le trouve. Mais comme avec Nicodème, comme avec la Samaritaine, comme d'ailleurs avec les Judéens, Jésus ne s'arrête pas aux apparences. Nous le savons, il regarde au cœur. Il va donc agir de la même manière auprès ou avec cette foule de Galiléens qui, ayant vu, nous dit le début de Jean 6, les miracles qu'il faisait. Jean 6, 2, une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Puis, cette même foule voit et touche, palpe l'œuvre de Jésus-Christ dans la multiplication des pains qui va satisfaire au besoin qu'est le sien, qu'est celui de cette foule. Ces gens, verset 14, ces gens ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. presque, je dis bien presque, le même témoignage que ceux de la ville de la Samaritaine. Il est vraiment le sauveur du monde. Pour ceci, il est celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. N'est-ce pas un beau témoignage? N'est-ce pas une déclaration publique extraordinaire? Peut-on demander plus? Exiger davantage? Oui. Oui. C'est ce que Jésus va s'employer à révéler dans la suite du texte. Oh, nous ne pouvons pas nous arrêter à tous les détails de ce chapitre 6. Il nous faudrait plus de temps que celui que nous consacrons le dimanche matin à ce genre d'exercice. Mais arrêtons-nous à quelques passages. Si c'était un film qui déroulait, nous assisterions à des arrêts sur image. Verset 14. Déclaration de foi, c'est le verset que je viens de lire. Verset 15. Projet extraordinaire. Le sacre de Jésus. Envisagé par la foule. Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira sur la montagne. Seul. Voilà donc planter le tableau. Une foule qui vient de manger à satiété, qui croit avoir trouvé le prophète annoncé et qui veut le couronner pour pouvoir continuer à manger. Suit la traversée du lac de nuit. Les disciples sont partis sans Jésus parce que Jésus n'était pas dans le coin, il fallait qu'il rentre. Ils sont donc partis et Jésus les rejoint. Marchant sur les eaux. Nous n'allons pas nous arrêter à cela ce matin. Ce sont les versets 16 à 21. Dans la suite, la foule continue, recommence à chercher Jésus. Et cette fois-ci, c'est du côté de Capernaum. Ils sont venus des régions où ils se trouvaient, où ils avaient mangé. Ils sont revenus vers Capernaum et cherchent Jésus. Verset 26. En vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. La lucidité de Jésus est impressionnante. Il sait très bien. Mais il leur dit aussi, travaillez. Non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, je suis au verset 27, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Et ils dirent, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Voilà donc un éclairage particulier jeté sur cette foule et sa perception de sa démarche auprès de Jésus. Ils le recherchent parce qu'ils ont mangé, et Jésus leur dit, mais souciez-vous, non pas de ce qui va satisfaire votre corps, mais de ce qui pourra satisfaire votre âme. Non pas ce qui touche à votre vie éphémère, mais préoccupez-vous de ce qui concerne votre vie éternelle. Et de parler brièvement de lui-même. de ce Fils de l'homme que Dieu a envoyé. Faire quelque chose intéresse cette foule. Comme cela intéresse toujours les êtres humains. Il est effectivement plus méritoire d'agir que de recevoir simplement ce qui est promis. Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Et la réponse de Jésus surprend. C'est souvent que Jésus surprend. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Verset 29. L'œuvre de Dieu qui vous prépare pour l'éternité est une œuvre de foi. Elle ne va pas être le produit de votre agitation, de vos capacités, de vos aptitudes, de vos projets, de vos prétentions. Elle est simplement la démarche de votre confiance dans l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est que vous vous confiez en l'œuvre de Dieu. C'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. L'œuvre de Dieu n'est pas ici ce que vous pouvez faire pour la vie éternelle, exception faite de croire, puis l'œuvre de Dieu par la suite se manifestera par votre faire, puisqu'il a préparé des œuvres d'avance afin que vous les pratiquiez. Cela vient derrière, cela vient après, ce n'est pas exclu du tout. Mais là, au principe même, que devons-nous faire pour avoir la vie éternelle? Croire. Croire dans ce que Dieu a fait, dans ce que Dieu fait. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Et immédiatement, comme nous l'avons vu précédemment avec les Judéens, la semaine dernière, immédiatement, ici, la réaction se fait jour. Et vous voyez, au verset 30, une parole qui peut vous laisser pantois, qui nous laisse pantois. Quel miracle fais-tu donc afin que nous voyions et que nous croyions en toi? Il y a là, je pense pouvoir le dire ainsi, une certaine mauvaise foi. Pour ne pas dire peut-être une mauvaise foi certaine. Car, verset 2, une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles. Verset 14, ces gens ayant vu le miracle que Jésus avait fait disaient, il est le prophète et ils veulent le faire roi. Et verset 30, quel miracle fais-tu pour que nous croyions en toi? Jésus, de nouveau, a mis le doigt là où ça fait mal. Jésus, de nouveau, a acculé ces personnes qui vont se retrancher. C'est l'ultime recours de ces gens-là derrière Moïse. Or, pour Jésus, la référence suprême, ce n'est pas Moïse, c'est Dieu. Et la suite continue, nous ne pouvons pas entrer dans le détail. Mais il se présente, lui, non pas comme cette manne qui est venue nourrir un peuple et qu'il fallait ramasser tous les jours pendant un certain temps, mais comme étant le pain de Dieu qui donne la vie au monde. Alors là, ils ont entendu. Pas compris, mais entendu. Donne-nous toujours de ce pain, Seigneur. Comme la Samaritaine avait demandé de l'eau. Mais à mon avis, pas du tout avec le même état d'esprit. La Samaritaine fut comblée. Cette foule ne peut pas l'être. Au verset 35 et 36, Jésus insiste là-dessus. Seigneur, pardon, Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais, je vous le dis, vous m'avez vu et vous ne croyez pas. » En d'autres termes, ces paroles ne vous concernent pas. Elles sont pour vous nulles, non avenues, parce que malgré ce que vous avez vu, vous n'avez pas cru. Et alors Jésus va développer la suite. Nous ne pouvons pas, je dis bien, reprendre tout cela. Je suis le pain de vie. En vérité, je vous le dis, verset 47, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle, je suis le pain de vie. Verset 51, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, si quelqu'un mange ce pain, il vivra éternellement, et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Avons-nous bien entendu? Ils ont entendu. Ils ont entendu que le don de cet homme qui est là devant eux est un don concret, un don matériel, un don physique, le don de lui-même. Mais c'est insoutenable. Il va insister, manger sa chair, boire son sang. Qui peut entendre de telles paroles? Elles ne sont pas difficiles à comprendre. Elles sont difficiles à admettre, difficiles à accepter. Qui peut entendre cela, diront-ils? Ou comme dira Frédéric Godet, qui est de force à écouter sans se boucher les oreilles? Parce que le langage qui est tenu ici est un langage déconcertant. C'est à partir de ce langage que dans l'histoire de l'Église s'est insinué le dogme de la transsubstantiation, du changement d'espèce de nature, du pain et du vin qui deviennent réellement chers et réellement sang de Jésus-Christ, auquel participent au travers de l'Eucharistie tous ceux qui croient en cette œuvre et en cette parole prise au pied de la lettre. C'est faire fi des paroles qui suivent. Car Jésus, sachant très bien combien ces paroles heurtaient les hommes, leur dira au verset 63, « C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Et l'apôtre Paul vient ajouter, si j'ose dire, quelques mots qui explicitent la chose, lorsque dans 1 Corinthiens 8:8, il écrit, « Ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. » Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Mes paroles sont esprit et vie. Alors, Jean 6, 64 révèle qu'il y en avait là qui ne croyaient point. Jean 6, 66 ajoute, dès ce moment, notre traduction met plusieurs de ses disciples. On peut traduire, et il me semble plus juste de traduire, beaucoup de ses disciples se retirèrent en arrière. Il y a dans le grec le pléonasme, la répétition de deux mots qui se complètent, si j'ose dire, ou qui se répètent. Mais c'est bien pour insister sur ce mouvement de recul et de retour vers la vie passée. Ils se retirèrent en arrière. Beaucoup se retirèrent. toute évidence, la désaffection ou la défection est massive. Elle est aussi importante qu'a pu être la simulation de la foi. La foule a fondu comme neige au soleil. Ils s'en sont allés les uns après les autres. Il ne reste auprès de Jésus qu'une poignée d'hommes. Ridiculement faible au plan numérique. Jésus a lui-même provoqué cette débandade. Il ne la subit pas comme un échec, comme une défaite, loin de là. Elle clarifie la situation. Et tous ceux qui étaient là et qui n'avaient rien à faire là, n'y sont plus. Ils s'en sont allés. Et gardant l'initiative, comme il le fait toujours, il va en devenir quelque peu déconcertant. Songez un peu à la situation. Il y avait là des centaines de personnes. Tout d'un coup, il n'y en a plus, ou presque. Il semblait y avoir un certain succès, et apparemment, c'est plutôt un désaveu. Jésus, alors, ou donc, dit le texte au verset 67, Jésus, donc, ou alors, dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» La question est pour le moins déstabilisante. Jésus souhaiterait-il la dissolution de ce groupuscule ? Jésus espère-t-il les voir partir, eux aussi ? Ou bien a-t-il noté dans son groupe quelque hésitation ? Ces hommes ont-ils été ébranlés ? Nous l'aurions peut-être été à leur place. À l'époque, c'était la domination romaine. Cette domination qui avait un adage très simple, vox populi, vox dei. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. En la circonstance, si la voix du peuple, c'est la voix de Dieu, mais que fait-on à côté de Jésus ? Car le peuple est parti. Le peuple a désavoué en masse cet homme au langage si surprenant parfois. La question de Jésus n'a rien d'anodin. Lui-même dit que dans le groupe, il y a un étranger. Il y a un démon, Judas. Était-ce une porte entrouverte pour qu'il se retire ? Je ne sais pas. Mais la question que Jésus pose est une question ferme, une question déterminée, une question qui ouvre la porte à toute éventualité. Elle n'est pas une incitation à l'abandon, mais elle est une invitation adressée aux 12 à faire usage de leur libre arbitre. Une invitation à rester maître de leur sort, de leur destinée. Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous retirer ? En d'autres termes, c'est le moment pour vous de vous déterminer. Et si cette interrogation nous était adressée à vous et à moi ? Et si Jésus nous disait aujourd'hui, de façon aussi claire, et vous, et toi, ne voudrais-tu pas aussi te retirer? Quelle serait notre réponse? Réponse à donner à quelqu'un que l'on ne peut aucunement abuser. Il est impossible de le tromper. Parmi les 12, la réponse jaillit de la bouche de Pierre. Fougueuse, spontanée, sans avoir aucunement consulté les autres. Cette réponse qu'il donne n'en est quand même pas moins plurielle, puisqu'elle les concerne tous. Elle se veut l'expression de tous. Nous, et là, utilisez, nous. À qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Quelle réponse! Arrêtons-nous-y quelques instants en prenant les propositions dans un autre sens qu'elles ne sont écrites. Nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Certains manuscrits anciens n'ont pas le Christ, que tu es le Saint de Dieu, mais peu importe. À l'inverse de la foule, dont la foi refusait les paroles de Jésus sur le don de lui-même, sur sa qualité de pain de vie qui donne la vie, à l'inverse de cette foule, eux ont cru ce que Jésus a dit. Ils ont cru. Qui t'a vu n'a pas cru, disait Jésus, enfin disait-on de la foule, Jésus lui-même disait de la foule. À l'inverse de cette foule qui t'a vu et qui n'a pas cru, nous, nous avons cru. Et selon tes propres paroles, Seigneur, si j'ose cette adaptation, c'est la volonté de ton Père, c'est que quiconque croit, voit le Fils et croit en lui, ait la vie éternel. Nous avons cru, nous avons la vie. Nous avons connu, dans le sens d'une relation personnelle, intime, c'est le sens biblique du verbe connaître, c'est le sens hébraïque de ce verbe, puisqu'il est utilisé pour les relations intimes du couple. Nous avons connu. Cette connaissance de Jésus est expérimentale, elle est pragmatique. Notre rencontre avec toi, Seigneur, notre fréquentation de ta personne a assouvi notre faim, elle a étanché notre soif, jusqu'à la transformer. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Seigneur, non seulement tu as étanché notre soif, mais tu permets que désormais, de ceux qui se confient en toi, coulent des fleuves d'eau vive. Selon tes paroles, Seigneur, tu as dit: je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim, il n'aura plus jamais soif. C'est notre cas. Ni faim, ni soif. Parce que tu as pleinement pourvu. Et ainsi nous avons connu que tu es le Saint de Dieu, celui que le Père avait promis, que les prophètes avaient annoncé. Tu es le Verbe fait chair. Parole de Dieu manifesté parmi les hommes, habitant parmi nous, plein de grâce et de vérité. Nous avons cru, nous avons connu. Et je me permets une citation libre de Jean 1. Nous croyons qu'au commencement, tu étais. Et tu étais avec Dieu. Et tu étais Dieu. Tu étais au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par toi. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans toi. En toi était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, qui t'ont reçue, à ceux qui croient en ton nom, tu as donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et nous t'avons reçu, et nous t'avons cru, et tes paroles ont chassé nos ténèbres et ont illuminé nos vies. Tes paroles sont les paroles de la vie éternelle. Ainsi donc, Seigneur, à qui irions-nous? Puisque tu as tellement et si pleinement satisfait les espérances de notre être, à qui irions-nous? De quel côté nous tournerions-nous? Pourquoi, selon Ésaïe 55, pourquoi pèserions-nous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillerions-nous pour ce qui ne rassasie pas? Nous avons cru, nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Avant de conclure, je voudrais renouveler l'interrogation de Jésus qui apparaît ici sous une autre forme. Elle est faite de deux questions que Jésus posa en d'autres circonstances à ses disciples. Dans Matthieu 16, il est question de cela. Vous connaissez, c'est pourquoi je n'irai pas chercher le texte dans son intégralité. Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Et vous connaissez la réponse de la foule, des disciples, pardon. Les uns disent que tu es ceci, les autres disent que tu es cela, et d'énumérer, bien sûr, toutes les hypothèses. Et alors Jésus va leur poser l'autre question. Autrement précise et peut-être embarrassante. Et vous, qui dites-vous que je suis? Quelle est votre opinion sur Jésus? C'est que dit-on que je suis? Quelle est votre conviction de Jésus? C'est qui dites-vous que je suis? À vous de répondre. Est-il pour vous, comme pour les apôtres, le Christ, le Fils du Dieu vivant? Alors, si c'est le cas, quelles incidences cela a-t-il dans votre, dans notre vie? Que faisons-nous des paroles qu'il nous a données? Que faisons-nous de l'exemple qu'il nous a présenté? En fait, comment vivons-nous notre qualité de disciple? Jésus n'est pas dupe. Nous pouvons éventuellement donner le change aux autres, entre nous, mais pas devant Dieu. Ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Ou bien Que suis-je pour vous? Qui suis-je pour vous? La semaine prochaine, j'aimerais aborder avec vous ce que Jésus demande que l'on fasse de ses paroles. Nous en parlerons, Dieu voulant, dimanche prochain, avant que je prenne quelques jours de congé. Que le Seigneur soit avec vous, qu'il grave dans vos cœurs ces interrogations du Maître. Celle-là, dans Jean 6, est extrêmement sérieuse. Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous retirer? Et les autres ne le sont pas moins. En êtes-vous ou qu'en dira-t-on de Jésus? Ou bien pouvez-vous affirmer avec les apôtres, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant? Et l'affirmer de telle façon que le Seigneur approuve et que le Seigneur atteste par votre vie que vous êtes vraiment ses disciples. À la semaine prochaine, si Dieu le permet.